Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes maintenant vraiment à la porte du carême, avec les derniers conseils de l'Église, pour commencer cette sainte quarantaine. N'oubliez pas ce que l'Église a toujours enseigné, que pendant le carême, les 40 jours du carême, eh bien le bon Dieu donne plus de grâce que pendant toute l'année. C'est vraiment une source de grâce énorme. Donc n'ayez pas peur de bien utiliser tous les textes liturgiques magnifiques du carême. Vous pouvez bien sûr pas venir à la messe tous les jours pendant le carême, mais il y a une messe chaque jour pour le carême. Ce que vous pouvez faire à la maison, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Lisez sur votre missel la messe du carême de chaque jour. Tous les matins, tous les soirs, pour la prière du soir, par exemple, vous lisez la liturgie, les textes de la messe propre du jour. Et cela va vous aider à vivre avec le carême de l'Église. Et puis aussi, jeûnons avec générosité. Les lois pour le jeûne eucharistique ont été très, très assouplies. Alors, souvent, les gens ont peur de jeûner. Monsieur l'abbé, 40 jours de jeûne, c'est quand même difficile. Vous savez, le jeûne d'aujourd'hui, c'est rien par rapport au jeûne d'avant. Hein. Au début de l'histoire de l'Église, pendant les jeûnes du carême, le carême était beaucoup plus long, c'était 70 jours. Et puis, les gens mangeaient que des légumes, c'est tout. Pas de viande, pas d'œufs, pas de fromage, pas de rien, pratiquement rien, uniquement des légumes pendant 40 jours. Tout ça s'est assoupli, le pape Pie XII a autorisé l'usage de la viande pendant le carême, sauf bien sûr le mercredi des cendres et les vendredis, mais jeûnons avec générosité. Pourquoi ? Parce que le jeûne ouvre la porte de l'âme. Le jeûne est un acte de la volonté qu'il faut faire bien sûr au service de la foi, il faut mettre au service de la foi, pardon, mais cet acte de volonté ouvre la grâce. Ou les portes de la grâce. Le jeûne aussi a traditionnellement toujours été demandé par l'Église pour nous aider à lutter contre les tentations de la chair. Rappelez-vous les trois grandes pénitences, le jeûne, la prière et l'aumône. Le jeûne, c'est contre les tentations de la chair. L'aumône contre la concupiscence des yeux et la prière contre l'orgueil. Donc jeûnons avec grande générosité. Le point capital des textes liturgiques de ce dimanche d'Aquincoagésime, c'est la lumière. C'est pour ça qu'il faut rattacher le dimanche d'Aquincoagésime à la fête de la Chandeleur, la fête de la purification de Notre-Dame. Que dit l'Évangile du jour ? L'Évangile nous parle d'un aveugle. Un aveugle qui mendie sur le bord du chemin et il a entendu parler notre Seigneur. Et relis que notre Seigneur Jésus-Christ arrive avec une troupe derrière lui, alors ça fait du bruit. Alors l'aveugle demande qu'est-ce qui se passe. Alors il dit c'est le Messie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Alors tout de suite il se lève d'un bond et puis il se met à crier Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors les gens dans l'entourage de frontière, chut, il y a le maître qui parle, taisez-vous. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors je suis encore terre, il continue de crier de plus fort. Alors notre Seigneur Jésus-Christ l'entend, voit cette foi chez cet homme, dit « Que voulez-vous que je fasse ? Seigneur, que je vois. » « Et notre Seigneur Jésus-Christ, votre foi vous a sauvé, dit-il. Allez en paix. » Il a retrouvé la vue. Alors il va rester à suivre notre Seigneur Jésus-Christ pendant un instant pour remercier le bon Dieu de toutes ses grâces. Et bien, mes chers frères, c'est exactement notre histoire. L'histoire de chacun d'entre nous. Nous aussi, nous sommes en train, comme un malheureux, en train de c'est un aveugle, un petit peu, on ne voit plus très bien ce qu'il faut faire, on ne voit plus rien. On a un mal fou à se retrouver dans la nuit du péché, dans la nuit du monde. Alors on sait que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, et donc il faut se précipiter devant mon Dieu parce qu'il passe, c'est la messe, c'est le passage de notre Seigneur. La Sainte Messe, c'est ça. Et il faut se précipiter devant notre Seigneur Jésus-Christ, il appelle au secours. Seigneur, ouvrez mes yeux. Ouvrez les yeux de mon âme. Ouvrez les yeux de mon âme, afin que mon âme puisse vraiment vous reconnaître, vous adorer, vous suivre. Et il faut parfois répéter les choses plusieurs fois. Et notre Seigneur Jésus-Christ demande un acte de foi. Donc il demande une répétition de cet acte de foi avant de nous guérir, avant d'ouvrir les yeux de notre âme. Et cette lumière donc, qui va venir envahir notre âme, c'est quoi ? C'est la vertu de charité. C'est pour cela que l'épître d'aujourd'hui, la magnifique épître de Saint Paul, Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 3, Corinthiens, chapitre 13. On dit que c'est la plus belle page de l'Écriture sainte. Relisez cette page magnifique de Saint Paul qui explique « Si je n'ai pas la charité, je suis comme une cloche qui sonne de loin. Si je n'ai pas la charité, même si je donne mon corps pour être brûlé pour les autres, je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, même si je nourris tous les pauvres, je ne suis rien. Et il prévient à la fin, la foi et l'espérance disparaîtront, mais la charité demeurera. C'est la charité la plus grande. Ici, nous avons besoin de la foi pour croire, d'espérance pour prier, mais aussi il n'y aura plus de foi, plus d'espérance, puisque nous verrons Dieu. Et donc, par contre, la charité, elle demeurera. C'est quoi cette charité? Cette charité, cette lumière dont je viens de vous parler, c'est la lumière de la grâce sanctifiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je n'ai pas la grâce sanctifiante, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Et oui, prochain. Donc, la première chose que nous demande le bon Dieu, l'état de grâce. J'explique ça constamment, surtout aux jeunes, pour qu'ils comprennent ça. Et les personnes plus âgées aussi. Si je n'ai pas l'état de grâce, si je n'ai pas l'habitation en moi de la Sainte Trinité, c'est ça l'état de grâce, c'est la vertu de charité, c'est ça la vertu théologale de charité qui fait que j'aime notre Seigneur Jésus-Christ plus que tout. Seigneur, je vous aime de tout mon cœur, toute mon âme et par-dessus toute chose parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. C'est ça la vertu de charité, c'est l'acte de charité. Et bien, si je n'ai pas l'état de grâce en moi, tout ce que je fais vaut plus rien. Et quand je parle encore une fois aux jeunes, je réexplique. Les gens viennent me dire, monsieur Lapi, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un véritable contre-révolutionnaire? Pour lutter contre cette go-révolution qui cherche à tout détruire la France chrétienne, tout ce qui reste de la France chrétienne. Première condition, l'état de grâce. Si je ne suis pas en état de grâce, si je ne vis pas en état de grâce, je ne suis pas un vrai contre-révolutionnaire. Un vrai contre-révolutionnaire vit en état de grâce. Dans toutes les personnes autour de nous, il y en a plein qui se prétendent contre-révolutionnaires, ces fameux politiciens de droite qui se prétendent de droite, qui ne vivent pas en état de grâce, qui se moquent complètement du bon Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ en eux, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ en eux, qui ne se préoccupent pas de garder leur cœur en état de grâce. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils disent, c'est rien. C'est vide. C'est pour ça qu'ils n'obtiennent rien du tout. Rappelez-vous, Sainte Jeanne d'Arc, je donne très souvent cet exemple, cette Sainte Jeanne d'Arc qui arrive en Orléans, pour essayer de goûter les Anglais hors de la ville, eh bien, alors que le siège durait depuis presque un an, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande la charité. Elle donne l'obligation à tous les soldats de l'armée française de se confesser de communier. Elle avait compris qu'il fallait d'abord l'état de grâce en les soldats. Nous sommes des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas en état de grâce, comme un soldat qui part se battre au front sans même prendre des armes offensives, défensives. Donc cette lumière qui est donnée à cet aveugle, eh bien c'est la lumière de la charité. Et cette lumière, mes bien chers frères, cette lumière va nous éclairer, va nous guider, va nous réchauffer. C'est le but de la lumière. Nous sommes dans l'obscurité du monde. Une des premières caractéristiques du démon, c'est l'obscurité. Ceux qui ont fait les exercices de Saint Ignace, c'est très bien expliqué par Saint Ignace, qui explique bien les signes du démon, la tristesse d'abord, ensuite l'obscurité, la confusion et l'attraction vers les choses laides. Et donc si j'ai en moi cette charité, cette vertu de charité par laquelle j'aime notre Seigneur Jésus-Christ plus que tout et j'essaie d'amener les autres autour de moi à notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, je pourrais par cette lumière en moi détruire l'obscurité qui est autour de moi. L'obscurité du péché, bien sûr, mais aussi l'obscurité du monde moderne dans lequel nous vivons. C'est ça la vertu de charité. La vertu de charité, c'est comme si vous voyez le rayon d'un phare qui indique l'entrée du port, qui indique la direction qu'il faut prendre pour pouvoir atteindre le port. Et le port du salut, c'est quoi? Le port du salut, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le paradis. Alors pourquoi il faut bien comprendre, mes chers frères, cette charité? Et on retrouve dans les textes, par exemple les textes de la purification, on retrouve exactement la même idée. Reprenez, si vous avez un petit peu de temps, reprenez les magnifiques prières aussi de la bénédiction des cierges, de la fête de la purification. Ce jour-là, il y a l'évangile de Nunc Dimittis, qu'on appelle le Nunc Dimittis du vieillard Siméon. Ce vieillard qui attendait depuis de longs mois au temple, il savait, il lui avait été révélé, vous ne verrez pas la mort avant d'avoir tenu entre vos mains le sauveur du monde. Et quand la très sainte Vierge arrive toute joyeuse avec son fils, son divin fils enveloppé de l'ange avec Saint Joseph, il prend l'enfant, il reconnaît tout de suite cet enfant, c'est le Messie. Il prend l'enfant dans ses bras et il l'offre au bon Dieu en disant, maintenant vous pouvez envoyer, maintenant mes yeux ont vu le salut. retrouve la même expression de la lumière qui est le salut du monde. Et c'est pas pour rien, mes bien chers frères, que à Sainte Église, conseil, c'est pas un ordre, c'est un conseil de l'Église de donner pour les religieux, quand c'est possible, de donner la soutane tous les religieux le 2 février, c'est pas pour rien. C'est parce que précisément la soutane devient la lumière du monde. Dans ce monde, si vous voulez, qui est complètement déconnecté avec le bon Dieu, la soutane du prêtre est justement comme un flambeau. C'est plus qu'un flambeau, c'est même un étendard, l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. J'ai moi-même pris la soutane le 2 février 75, pas d'aujourd'hui. Mais j'ai jamais oublié ma prise de soutane. Le jour où notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu, nous revêt, qu'on appelle la livrée du Seigneur. Et la soutane, c'est aussi la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous libère en quelque sorte de l'obscurité du monde. C'est pour cela que l'équipement, si vous voulez, militaire du prêtre est formé de trois choses, de trois parties. Donc le col, la soutane, le col, la soutane et la ceinture. Pourquoi trois parties? Parce que justement, il y a trois concupiscences. Et que le prêtre, c'est le séminariste qui est le futur prêtre, le futur religieux, et bien le séminariste est celui qui est le soldat d'élite qui va devoir se battre contre les trois concupiscences. D'abord la concupiscence de l'orgueil. Contre la concupiscence de l'orgueil, et bien un col romain qui est comme l'anneau de l'esclave. L'anneau de l'esclave qui symbolise l'obéissance. L'obéissance à l'Église, l'obéissance à ses supérieurs. Quand j'étais à fraternité, c'était comme ça. Eh bien, c'est ce col romain qui entoure tout le cou, et justement qui serre le cou, représente justement l'anneau de l'esclave, donc l'anneau d'obéissance, la chaîne d'obéissance qui nous renie à notre Seigneur Jésus-Christ, cette fois-ci pour, bien sûr, pour détruire, pour diminuer la concupiscence de l'orgueil. Puis la soutane elle-même, par sa couleur, sa simplicité, représente justement la pauvreté. La pauvreté du prêtre, qui est l'existence pour la raison pour laquelle le prêtre n'est pas payé. La pauvreté du prêtre est la mort au péché, la mort au monde. C'est pour ça qu'elle est de couleur noire. Et donc là, c'est la lutte contre la concupiscence des yeux. Et enfin, la ceinture autour de la taille représente la lutte pour la vertu de chasteté. Donc la lutte contre la concupiscence de la chair. Oui, bien chers frères, tout ce qu'il faut comprendre, qu'il faut demander avec humilité à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous donne toutes ces grâces. Oui, soyons pour chacun d'entre nous, soyons vraiment la lumière du monde. C'est ce que dit notre Seigneur, je suis la lumière du monde. Vous savez, c'est pas pour rien que les révolutions partout dans le monde, on voit très bien. Première chose qu'ils font quand ils prennent le pouvoir, c'est interdire les habits religieux. Empêcher l'habit religieux. Empêcher le port public de l'habit religieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que l'habit religieux oblige les gens à se rappeler de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez par exemple, pensez à ces millions d'âmes, peut-être, qui ont été sauvées parce que dans les hôpitaux dans lesquels ces âmes ces corps étaient en train de pourrir et de mourir, eh bien, ces âmes avaient à ce moment-là, dans les siècles anciens, c'était comme ça, c'était les religieuses qui s'occupaient des malades. Les religieuses s'occupaient des malades, c'est toute la charité de l'Église qui a commencé tout de suite les maisons, ce qu'on appelle les maladeries, les maisons pour les malades, qu'on appelait justement les hôtels-dieux. Hôtels-dieux parce que c'était là où les malades venaient pour justement recevoir les soins, et la plupart des infirmières, presque toutes à l'époque, étaient des sœurs, des religieuses. Et ces religieuses, avec leur délicatesse, leur gentillesse, leur esprit d'abandon complet à notre Seigneur Jésus-Christ, s'occupaient des corps, mais s'occupaient aussi des âmes. Et ces âmes de personnes qui étaient dans des gravats, en train de souffrir des pénitences épouvantables, eh bien, elles étaient toutes illuminées par la dévotion de ces religieuses, et les religieuses préparaient les âmes. Et lorsque l'âme était prête, à ce moment-là, elles allaient chercher le prêtre. Les prêtres venaient pour donner l'absolution, donner la communion, dans bien des cas, donner l'extrême onction. Eh bien, c'est tout aussi important aujourd'hui. On le voit, mais je porte la soutane depuis des années et des années, je me rends compte très bien l'importance du port de la soutane. L'importance du port de la soutane, justement, pour nous aider à être le sel de la terre, la lumière du monde. Même les païens, quand ils voient une soutane, ils sont obligés de penser au bon Dieu. Et c'est pour ça, surtout en France, c'est pratiquement le seul pays aussi comme ça, la France et l'Espagne aussi, de plus en plus, où il y a tout de suite cette espèce d'agressivité pour certains qui ne veulent pas du bon Dieu, donc ils se déchaînent contre la soutane. Déchaînent contre la soutane. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces à la très sainte Vierge Marie. Que la très sainte Vierge Marie, pas la très sainte Vierge Marie, que la très sainte Vierge Marie, elle qui est venue présenter son enfant au temple le 2 février, et bien que la très sainte Vierge Marie nous aide aussi, vienne aussi nous présenter, qu'elle nous présente à l'autel, qu'elle nous présente à son divin fils. Puisqu'elle est notre mère adoptive, et bien justement, la très sainte Vierge Marie va venir et va se présenter, va nous présenter à son divin fils. Elle va expliquer l'étendue du désastre. Ah oui, mon Dieu, oui, c'est pas très brillant, mais il y a la bonne volonté chez cette personne. Alors, aider cette personne à retrouver la lumière. Et notre Seigneur Jésus-Christ, de sa lumière, va nous rendre la vertu de charité. Et si nous avons retrouvé la vertu de charité, c'est-à-dire l'état de grâce, à ce moment-là, mes bien chers frères, tout est possible. La vie dans le monde, c'est ça. Nous sommes dans le monde pour nous préparer à mourir. Et c'est la raison pour laquelle le bon Dieu, la Sainte Église nous a donné le carême. Le carême, c'est quoi? C'est une préparation à la mort. Qu'est-ce que va dire le prêtre mercredi? J'ai fait, il y a quelques jours, je préparais les cendres. Et qu'est-ce que va... Les cendres qui sont faites à partir des rameaux de buis de l'année précédente, eh bien, qu'est-ce que va dire le prêtre en remettant les cendres? Il va tremper son pouce dans les cendres, il va faire un signe de croix sur votre front. Qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là? Bonjour, passez une bonne journée, pas du tout. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais maintenant, homo, qui a polisé cette une pauvre et révertirice, souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Souviens-toi, mon ami, que tu vas mourir. Souviens-toi qu'il y a un Dieu qui t'a créé et qu'un jour tu vas passer en jugement devant ce Dieu qui t'a créé. Souviens-toi que tu viens de rien et tu retourneras en poussière et ton âme, elle, étant immortelle, ton âme sera jugée par le bon Dieu. Et ce corps qui va se réduire en poussière, un jour à la fin des temps, ressuscitera. Il ira participer à la joie de l'âme au ciel. Et malheureusement, souffrance épouvantable de ceux qui sont en enfer, pour ceux qui sont morts à tel péché mortel. Donc demandons, en ce début de carême, mes bien chers frères, demandons au bon Dieu, à notre Sainte Vierge Marie, qu'il nous obtienne toutes ces grâces de lumière, ces grâces de paix, ces grâces de garder notre regard toujours tourné vers la lumière. Cette lumière éternelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Une lumière qui ne fadera jamais, une lumière qui ne diminuera jamais, parce qu'elle est la lumière de la divinité. Et cette divinité est éternelle. N'oublions pas qu'il y a une seule personne qui vous décevra jamais, mes bien chers frères. Cette personne qui vous décevra jamais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons cette grâce de bien passer tous les carêmes. Cette grâce, n'hésitez pas. Un début de carême, peut-être de faire une bonne confession, éventuellement même de pouvoir vous libérer pour venir faire une retraite. Je vous ai dit que la première retraite de février est complètement pleine. J'ai encore quelques places pour la retraite de mars. Après, il y a des places, ça se remplit très vite déjà pour avril. Mais essayez de venir faire la retraite, parce que la retraite, justement, vous aide. Ces retraites ont un moyen extraordinaire que nous donne le bon Dieu pour justement retrouver la lumière. Retrouver la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ qui éclaire le monde pour dissiper justement toutes les ténèbres du péché. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.